Alors, moi, je suis Michel Dumas-Paradis.
Mon nom, c'est Jean-Paul.
Oui, ben, je m'appelle François, je suis dans la mi-trentaine.
Oui, mon nom, c'est Brian Pierce, je suis au...
Alors, mon nom, c'est Alexis Michel, je suis le cadet.
Étienne Ferron-Forget, coordonnateur Valoriste Québec.
Mon nom, c'est Linda Toussaint.
Donc, je suis Ruba Gazal, députée de Mercier pour Québec solidaire.
Sabrina Charon, chef d'équipe programme opérationnel chez Recyc Québec.
Mon nom, c'est Marika Vasquez-Tagliero.
Bonjour, je me présente, mon nom est François Simard.
Je m'appelle Lise Lachance, je vis à Saint-Roch depuis 33 ans.
Je m'appelle Véronique Demers et je suis journaliste pigiste à Québec. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers des valoristes.
Maintenant que vous en savez plus sur les valoristes, la modernisation de la loi sur la consigne et les défis des grands et petits brasseurs, qu'en est-il des détaillants en alimentation? Ils sont tenus par la loi d'accepter les contenants consignés, mais des enjeux de salubrité et en ce moment de règles sanitaires peuvent les freiner dans leur travail. Les municipalités ont aussi leurs défis à relever. Je suis donc allée frapper à la porte de la Ville de Québec pour avoir un son de cloche. J'ai aussi interviewé un détaillant en alimentation, Éric Courtemanche-Barry. Où en sommes-nous rendus dans la gestion des matières résiduelles? Je me suis entretenue avec Suzanne Véraud, membre du comité exécutif responsable de l'environnement et de la gestion des matières résiduelles. Il est évident que l'environnement et le développement durable concernent bien plus que les contenants consignés. Il y a aussi la gestion des matières organiques. À Québec, l'usine de biométhanisation devrait ouvrir en 2022. Le projet devrait permettre de traiter 182 600 tonnes de déchets organiques. Les citoyens de Québec pourront donc bientôt valoriser leur matière organique grâce à l'usine de biométhanisation. Leurs matières recyclables sont déjà acheminées au centre de tri. Géré par l'organisme VIA, le centre de tri intègre aussi un programme de réinsertion sociale.
On a déposé en 2018 une vision de la gestion des matières résiduelles, un plan très ambitieux de valoriser 82 % des matières résiduelles d'ici 2028. C'est très ambitieux. Quand on était rendu à 55 % quand on a démarré le programme, je vous dirais qu'on a atteint environ 70 % presque 2 ans plus tard. En plus, on a donné le suivi, c'est le comité de vigilance de l'incinérateur, qui s'appelle maintenant comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles. On a élargi le mandat, fait que vraiment, par résolution à l'Hôtel de Ville, ils sont responsables de surveiller le suivi de notre plan d'action pour 2028. Ça veut dire que les citoyens y participent. En 2019, c'est 64 200 tonnes de matières qui ont été déchargées au centre de tri. Alors, où on est très performant, c'est qu'on a valorisé 97 % de ces matières-là, OK, qu'on a réussi à valoriser et à retourner sur le marché. Tout ce qui est mis, disons, les bouteilles de vin, tout ce qui est consigné qui arrive dans le bac bleu, on réussit à le traiter. Par tri optique, on a une machine, nous, vraiment, on a un équipement qui sépare le verre des autres matières et on réussit à revendre tout le verre qu'on recycle.
Saviez-vous que c'est seulement le verre consigné amené au centre de tri de Québec qui peut être réutilisé? Le verre non consigné, lui, continue son chemin vers l'incinérateur.
Avec les nouvelles lignes directrices du gouvernement qui vont nous obliger, justement, à traiter tous les verres, toutes les différentes sortes de verres. OK? Bon, bien là, nos équipements vont pouvoir parvenir à, tu sais, comme tout ce qui n'est pas consigné, on va pouvoir le traiter. On attend juste qu'il dépose son projet.
Autrement, quelle est la perception de Suzanne Véraud à l'égard du projet des valoristes?
Bien, c'est un projet que je trouve très important pour le milieu. OK, c'est un projet qu'il faut intégrer, je pense, dans les façons de faire de la ville. Ça répond à une clientèle qui en a grandement besoin. Il y a un volet social super important là-dedans. Alors, je crois à ce projet-là. La ville a déjà rencontré ces gens-là, mais un jour, on n'est peut-être pas rendu là, mais on veut les intégrer aussi dans une action sur toute notre démarche là, de gestion des matières résiduelles.
Comment la Ville de Québec prévoit aider les valoristes après la première année de leur projet pilote qui s'est terminé à l'automne 2020?
Il va falloir qu'ils viennent nous expliquer la réussite, le besoin ressenti et l'adhésion de la population. Évidemment, on le sait que ça touche une catégorie de personnes où peut-être les fins de mois sont plus difficiles. Là, puis je le dis vraiment, ça existe. Il ne faut pas avoir peur des mots. Là, ça existe. Il faut être prêt à ces gens-là. Moi, je serais prête à les rencontrer à la fin de leur projet et qu'on discute là vraiment de l'impact que ça a eu, puis qu'est-ce que ça a pu représenter pour eux. Puis s'ils voient vraiment un besoin, là, je vous dirais, plus grandissant, là, un besoin d'aller plus loin là-dedans.
La création de Valoris Québec en OBNL au printemps 2020 donne la possibilité d'avoir des subventions comme organisme de la Ville de Québec. De plus, dans le cadre d'un projet élargi, Mme Verrou aimerait travailler de concert avec sa collègue Émilie Villeneuve, membre du comité exécutif responsable du développement social.
Émilie, c'est large son mandat là, en développement social, là. C'est l'itinérance, c'est vraiment très, très large. Là. C'est les sans-abri, l'itinérance, justement la pauvreté aussi. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant. Si ça réussit aussi bien comme vous venez de me l'apprendre, tant mieux. C'est de la musique à mes oreilles, je suis contente d'entendre ça.
En greffant potentiellement le développement social au projet des valoristes, la Ville de Québec pourrait-elle mettre en place des points de dépôt intégrés aux organismes en soutien à l'itinérance?
Premièrement, il faudrait discuter avec les valoristes, les organismes, et ça, c'est vraiment le volet social encore. Tu sais, avec le travail avec les organismes communautaires là, à volet social, moi, je pense que c'est ensemble avec ces gens-là qu'il faudrait voir à des ententes.
Outre la gestion globale des matières recyclables dans une ville comme Québec, qu'en est-il de la gestion à plus petite échelle des contenants consignés, comme chez un détaillant en alimentation? Selon le directeur général de l'Association des brasseurs du Québec, Patrice Léger-Bourgoin, la responsabilité sociétale du retour des contenants consignés appartient aux détaillants qui ont le monopole de la vente de bière sur le territoire québécois. Selon M. Léger-Bourgoin, les détaillants sont compensés chaque année à hauteur de 30 millions de dollars par l'industrie brassicole pour assurer le fonctionnement du système de consigne. Les détaillants reçoivent 2 cents par contenant pour la manutention des contenants consignés. M. Léger-Bourgoin juge ce tarif encore satisfaisant pour la manutention, même si celui-ci n'a pas augmenté depuis des décennies. Le directeur de la BQ souligne qu'aujourd'hui, les gobeuses exigent beaucoup moins de temps de main-d'œuvre que dans les années 1980. Éric Courtemanche-Barry, propriétaire du marché Tradition Courtemanche-Barry, dans le quartier Saint-Roch, est d'un tout autre avis que M. Léger-Bourgoin.
Tout arrive dans les épiceries. Alors nous, ça fait longtemps, là, puis, mais présentement, on est pris entre 3 ministères. On est pris entre la santé publique avec le COVID, mais disons qu'en temps normal, on est pris avec le MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation du Québec, qui nous gère au niveau hygiène et salubrité, qui nous donne des règles. Et en même temps, on récupère des consignes qui ne sont pas nécessairement toujours salubres, si on peut dire. Là. C'est une drôle de gestion, que ce soit en supermarché. Il y a plusieurs autres provinces, que c'est dans les centres de tri ou dans les centres de récupération, gérés des fois par les organismes, comme les valoristes, ou des fois gérés par l'État aussi, ou peut-être même gérés par le privé. Je pense qu'il y a une province qui est privée qui le gère. Mais je pense que la solution idéale, ça serait une solution d'être capable que les valoristes, dans les grands centres urbains, que les valoristes aient des locaux qui offrent ce service-là à la population. Puis en même temps, ça donne des revenus, comme on tantôt, il y a des gens qui, tu sais, en Saint-Roch, on ne se le cachera pas, il y a des gens qui, ça donne un revenu d'appoint, c'est ce qui fait la différence entre manger et pas manger des journées, là, de pouvoir ramasser les consignes et puis les revendre. C'est un boulot, carrément, pour ces personnes-là. Là. Et quand on parle de gestion, il y avait des études là, indépendantes qui disaient qu'une gestion d'une canette pour un privé, c'est entre 5 et 7 sous. Ça y prend. Alors, on reçoit 2 sous, mais ça nous coûte 5 à 7 sous en main-d'œuvre, en entretien de gobeuse, comme on appelle, en espace de locatif, etc., ou en entretien du ménage, parce qu'il ne faut pas se salir, en système antiparasitaire, parce que ça amène des parasites. Il y a des bouches, il y a des abeilles, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent avec ça des fois.
En ce moment, le marché Tradition Courtemanche-Barry ne peut même pas faire fonctionner ses gobeuses, faute d'espace suffisant pour respecter les règles sanitaires de distanciation sociale.
L'idéal, ça serait un local fixe, puis qu'il y ait des sous publics. Pour ça, il faut qu'il y ait des sous publics.
Vous, vous êtes quand même, on peut dire, impliqué socialement. Vous acceptez la monnaie en trait don?
Oui, oui, je fais pas en trait don. J'étais sur le CA d'engrenage aussi. Je collabore, maintenant je ne suis plus sûr, mais on collabore quand on peut là, donner un coup de main à Grenage au niveau du frigo. Est-ce qu'on donne beaucoup de denrées? On s'implique dans le quartier. Moi, je pense que quand on choisit le quartier Saint-Roch, il faut s'impliquer, il faut se retrouver les manches et faire partie du groupe des gens qui s'impliquent. Je pense que ça allait de soi. Les prochaines années, là, je pense qu'il y a une opportunité pour les valoristes là, de pouvoir s'installer. Le bon côté de la COVID est arrivé pour eux, c'est de dire ben il y a comme une reconnaissance envers leur travail, puis peut-être une. Alors, j'espère pour eux peut-être des budgets ou des sous pour qu'ils puissent avoir une permanence, être permanent, avoir un local pour la récupération des produits avec consigne, surtout qu'elle va augmenter d'ici 2022. Là.
Concrètement, comment M. Courtemanche-Barry aide-t-il les valoristes de Québec?
Quel genre de partenariat je pourrais avoir avec eux? Ben, est-ce que c'est un soutien financier, c'est un soutien organisationnel, c'est un soutien logistique? Ça pourrait être une de ces trois réponses-là ou une partie de ces trois réponses-là là, pour aider. Moi, je pense que les associations de détaillants ou les marchands en général, on a un intérêt. Il y a même des villes qui ont développé, on pense à Granby, il y a un marchand là, qui a carrément loué un local et puis il participe avec, je crois, qu'un organisme communautaire pour faire ça. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, on peut être imaginatif, là, puis, mais je pense que c'est du devoir du marchand aussi d'aider parce que en échange que nous, on aura pu gérer ça, bien, ça peut-être qu'on peut aider d'une quelconque façon là, ces gens-là. Là. Ça pourrait être un partenariat, là, organisme communautaire et commercial. Là, où est-ce que ma participation en tant que marchand pourrait être? J'aimerais faire partie de la solution avec les valoristes. Il faut profiter du momentum qu'il y a présentement, puis de la volonté gouvernementale d'élargir la consigne, qui peut être vue, même par moi au départ, à dire « Ah oh non, on n'a plus de place », mais c'est le momentum de dire « Mais non, mais justement, il faut faire un centre de tri, un centre de collecte, puis que, ben, tant mieux, les valoristes sont là pour dans les grands centres pour le gérer ». On pourrait dire dans le privé, on a une opportunité d'affaires là, pour eux autres là, qui se passe présentement. Là. Surtout au cours des 2 prochaines années, où est-ce que ça va se développer de plus en plus?
Fait intéressant, depuis l'automne 2019, Éric Courtemanche-Barry fait partie du conseil d'administration de l'ADAC, l'Association des détaillants en alimentation du Québec. Sur les 8000 détaillants au Québec, 2000 d'entre eux en font partie. Évidemment, l'enjeu de la consigne a été discuté au sein du conseil d'administration.
La DAC siège présentement sur un comité avec le gouvernement, un comité où est-ce qu'on trouve les grands brasseurs. On trouve aussi les 3 grandes chaînes, là, Sobeys, Loblaws et Metro, qui siègent sur un comité. Il y a les grands brasseurs, sûrement que les micro-brasseries doivent être là, j'imagine. Il y a les grands aussi, embouteilleurs Coke et Pepsi qui siègent sur ce comité-là. Puis l'ADA, ils siègent aussi. Puis on est en train de monter une proposition là, qui sera dévoilée là, à l'automne ou au printemps pour voir où est-ce qu'on s'en va justement avec la consigne et la récupération de la consigne. Là. Présentement, là, l'ADA, la position qu'on a, c'est un peu la même position que j'ai moi présentement, c'est est-ce possible d'avoir soit des centres de tri gérés par du municipal ou gérés par du local ou gérés par des organismes là, comme les valoristes pour Québec et Montréal et pour d'autres grandes villes là, qui sont capables d'avoir un organisme qui lève la main et dit hey, nous, ça nous intéresse, mais il faut que l'organisme soit gagnant. Aussi.
Au début de l'année 2020, juste avant l'arrivée de la pandémie, le gouvernement caquiste a annoncé la venue de centres de dépôt pour les contenants consignés. La députée solidaire de Mercier, Ruba Gazal, a commenté cette nouvelle.
Cette mesure-là, qui est inéquitable et non explicable du fait que les détaillants qui font exactement le même travail que les valoristes qui, eux, le font même pour pas d'argent. Et pourquoi est-ce que eux autres reçoivent plus d'argent par contenant 2 sous alors que les valoristes en reçoivent beaucoup moins? C'est une preuve de la non-reconnaissance de leur travail. Mais et ça, c'est un exemple de quelque chose qui doit être changé, d'autant plus que les détaillants, je veux dire, je comprends que eux, c'est comme s'ils offraient un service, mais la réalité, c'est qu'ils sont très contents, les détaillants, de vendre ces produits-là, de vendre ces bières-là et tous ces produits qui sont dans des canettes d'aluminium ou dans des verres. Ils sont contents de le faire. Donc, quand les gens reviennent, ce que ça leur donne, c'est pas uniquement des contenants vides, ça leur donne une fidélisation de la clientèle. Donc, ils reçoivent plus de primes à la manutention et en plus de ça, bien, plus d'achalandage. Alors que pourquoi cette non-reconnaissance? Ça, c'est un élément très précis d'un exemple de quelque chose qu'on va changer quand le gouvernement va déposer le projet de loi. Il va avoir des centres de dépôt. Donc, il va avoir des endroits où les gens vont pouvoir se déplacer pour aller rapporter leurs contenants, autre que seulement chez les détaillants, puis qu'il y allait avoir un projet pilote. Puis si le projet pilote fonctionne, on va le mettre, on va avoir 400 points de dépôt partout au Québec. Mais on a ici des gens, puis je veux dire, on parle de projet pilote et tout ça, mais il y a les valoristes, eux, se cherchent un endroit.
C'est ça.
Je pense même qu'ils ont obtenu du financement, mais c'est pas suffisant. Ils se sentent pas en ce moment supportés par le gouvernement comme des acteurs qui pourraient faire partie, par exemple, de ce projet pilote-là, d'être un endroit de dépôt et de venir en aide, si on veut, en guillemets, pour les détaillants qui, eux, surtout avec la COVID, n'en veulent pas de ces contenants-là. Dans le projet de loi que le ministre va déposer, il faut qu'il y ait une place pour eux. Et moi, quand ce projet de loi va être déposé puis qu'il va être étudié en commission parlementaire, c'est sûr et certain que non seulement je vais poser des questions, mais je vais amener des amendements, toutes sortes de beaucoup de pression pour qu'ils aient une place à part entière si ce n'est pas le cas, puis qu'ils soient soutenus comme des acteurs majeurs et non pas uniquement comme quelque chose de
marginal.
De marginal.
Malheureusement, selon l'épicier propriétaire Éric Courtemanche-Barry, l'Association des brasseurs du Québec n'est pas très chaude à l'idée d'aller récupérer les contenants à remplissage multiple ailleurs que chez les détaillants en alimentation.
Présentement, le groupe qui fait le plus d'objections, c'est les grands brasseurs. C'est les gens peut-être qui sont le plus réfractaires à ça, alors que pour eux, c'est simple. Hein? Ils viennent déjà livrer de la bière dans un magasin, ils ramassent la bière, puis alors que là on leur dirait, on vous demande d'aller les chercher dans un autre lieu, c'est beaucoup plus compliqué. Les magasins, dernièrement, cet été, là, qui ont fait des collectes à l'extérieur de leurs magasins, ils ont réussi à convaincre les grands brasseurs à la longue de venir les ramasser dans le parking ou venir les ramasser sur le terrain adjacent ou dans un parc près de chez nous. Là. Mais c'est compliqué. Alors, si on veut y réussir, il faut que tout le monde y mette du sien, sinon on ne réussira pas à trouver la solution idéale.
Je voudrais ça qu'il y ait d'autres dépôts, comme la coopérative Les Valoristes qui existe au Québec. C'est un vœu pieux que je fais, mais surtout, on a besoin qu'il y ait plus d'investissement de la part des personnalités publiques, politiques, qu'on puisse faire quelque chose à l'échelle de ce que fait le Canada actuellement. On est vraiment très en retard, fait qu'il y a beaucoup de choses à faire progresser. Puis ça va se passer en travaillant ensemble. On ne peut pas se passer du soutien des personnalités publiques, politiques et du soutien de l'industrie. C'est un travail qu'on doit faire ensemble. Fait que c'est un appel à ce qu'on puisse travailler main dans la main plutôt qu'à se méfier les uns des autres et à pas trop savoir qu'est-ce qui se passe.
Pour ce dernier épisode, je souhaite vous partager un projet pilote inspirant, tellement qu'il devrait faire des petits un peu partout au Québec. À Granby, l'épicier propriétaire de l'IGA Saint-Pierre Extra, Miguel Saint-Pierre, a aménagé un local annexé à son épicerie. Cet espace accueille 6 gobeuses et est dédié exclusivement au retour des contenants consignés.
J'ai ouvert officiellement le 24 mai. Dans le fond, au début, c'est sûr, on avait besoin comme peut-être plus 3 employés à temps plein là, parce qu'on avait interrompu le retour des consignes pendant la pandémie. C'est sûr que ça a créé un surplus là, de contenants consignés chez les gens. Donc, au début, ça a été vraiment beaucoup plus achalandé. Mais là, présentement, on travaille avec 2 employés. J'ai eu l'initiative de faire ça, pensant que ça pourrait peut-être faire avancer les choses, puis qu'on puisse travailler avec l'industrie, puis que ça puisse faire bouger les choses au niveau du ministère de l'Environnement, puis Recyc Québec, puis tout ça. Puis ça a porté fruit. ça a dérangé quand même un paquet de niveaux, plein de gens qui sont venus voir le centre de dépôt, puis on devrait en sortir avec du positif.
C'est de sa propre initiative que Miguel Saint-Pierre a aménagé le local. Il n'a reçu aucun soutien financier de Sobeys, dont fait partie le IGA Extra. Deux semaines avant l'ouverture de son centre de dépôt, l'épicier propriétaire a aussi procédé à une grande collecte de contenants consignés, question de soutenir la communauté.
J'avais organisé la grande collecte IGA Saint-Pierre dans le stationnement du zoo. On a ramassé 1 200 000 contenants en 3 fins de semaine que les gens, dans le fond, en faisaient don. On a remis ces sommes-là à 3 organismes de la région. La Banque alimentaire locale ici, SOS Dépannage, à la santé mentale pour la fondation de l'hôpital de Granby. Puis à la fondation du zoo, on a remis 3 chèques de 20 000 $.
Après cette grande collecte, Miguel Saint-Pierre a concentré ses efforts pour rénover et aménager son local de dépôt pour les contenants consignés.
Bien, en fait, le local, il est dans le même stationnement. Dans le fond, c'est un ancien local Vidéotron. Il y a 7500 pieds carrés. Et puis moi, ce que j'ai fait, j'ai aménagé le local. Il a fallu faire de la démolition. Il y a 3 jours de démolition, enlever des murs, tout ça. On a refait les planchers pour que, tu sais, que ça soit cute, là, pour que ça soit agréable, que ça donne une ambiance le fun pour les gens de venir apporter leurs consignes.
Miguel Saint-Pierre a transféré les 2 gobeuses qu'il possédait déjà dans son épicerie, en plus d'acheter 4 autres gobeuses à raison de 15 000 $ par machine. M. Saint-Pierre a aussi installé des distributrices de boissons gazeuses dans le local de dépôt, en plus des gobeuses, pour se conformer aux normes municipales et obtenir ainsi son enseigne de centre de dépôt.
Suite à l'ouverture de mon centre de dépôt, le ministère de l'Environnement a mandaté une firme conseil pour créer un consortium avec l'industrie. Puis, ils m'ont invité à faire partie du comité de design et de conception pour élaborer un nouveau modèle d'affaires pour la gestion de la consigne qu'on va présenter au gouvernement. J'engage un contracteur pour tout aménager ça. Puis là, c'est un vieux local. Je me suis assuré d'avoir accès à un dock de réception parce que si j'avais pas de dock de réception, les brasseurs refusaient de venir ramasser les bouteilles.
Au final, Miguel Saint-Pierre a investi 87 000 $ pour son local de dépôt. Moins de 6 mois après l'ouverture de son local, il a amassé près de 700 000 contenants consignés, soit le double de la quantité habituellement recueillie.
Théoriquement, on devrait faire un projet pilote avec mon centre de dépôt. On n'a comme pas le choix parce que, en fait, le gouvernement, il nous demande, on vous donne les paramètres de l'élargissement de la consigne. On vous confie à l'industrie de vous entendre pour un nouveau modèle d'affaires. Puis, si vous entendez pas, ben nous, on va vous en imposer un. Donc, on s'entend que si le gouvernement nous impose un modèle d'affaires, on sait tous pertinemment que ça va coûter au minimum le double. Il y a des modèles qui fonctionnent très bien. Je me suis inspiré de ce que j'avais déjà vu dans ce coin-là. Puis, j'ai mis ça efficace, beau pour les clients. T'sais. C'est bien aménagé, il y a un beau plancher, c'est ciré, c'est propre, ça sent bon quand on rentre. 2 lavabos, les gens peuvent se laver les mains. J'ai mis une section comme un demi-mur pour cacher la partie où on entrepose en arrière. En bout de ligne, si les détaillants du Québec n'ont plus à reprendre ça dans leur magasin, c'est une très grande victoire. Si on peut réussir à le faire correctement, dans le respect, puis que tout le monde y trouve son compte, je pense que ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. On a l'opportunité de pouvoir avoir un super beau modèle d'affaires qui fonctionne aussi, parce que c'est pas juste de dire « OK, on élargit la consigne, on récupère ça différemment. » Tu sais, en bout de ligne, faut que les gens rapportent le plus possible leur contenant consigné. C'est d'essayer de trouver une solution, tout le monde ensemble, pour converger vers un modèle d'affaires qui fait l'affaire à tout le monde un peu. Mais en tout cas, tout le monde a à mettre un peu d'eau dans leur vin. C'est un très long processus.
J'espère que vous avez apprécié cette série de balados sur les valoristes. Si vous vous êtes rendu jusqu'ici, vous regardez sûrement votre bac de recyclage d'une autre façon. Qui sait? Peut-être que vous préparerez désormais un sac de contenants consignés à donner, séparés de vos déchets, à moins que vous n'alliez vous-même les porter chez le détaillant. Bref, salut et bonne récup!
Réalisation Véronique Demers. Coordination à la production, montage, mixage et bruitage, Marlène Bordelot. Coordination à la programmation, Pascal Evans. Les Valoristes est une production de CKIA FM en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec.